Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, après avoir vu la chute d'Adam et Ève, il nous faut voir la sentence portée par Dieu. Nous le voyons toujours comme infligeant une peine, et une peine lourde. En réalité, cette sentence de Dieu apporte essentiellement et principalement un remède et elle compense la peine par beaucoup de consolation. J'irai même plus loin. Elle apporte une béatitude extraordinaire car il faut nous rappeler justement les béatitudes prêchées par Jésus-Christ qui ne dit pas « malheureux les pauvres », mais qu'il se rassure, ils obtiendront des richesses, qui ne dit pas « malheureux ceux qui pleurent », mais qu'il se rassure, ils seront consolés, etc., mais qui dit « bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont dans l'affliction ». Nous allons voir en tout premier que la punition du serpent, c'est-à-dire du démon, annonce une très grande miséricorde et si l'homme profite, sait profiter de cette miséricorde, elle lui annonce une grande victoire. Voici la sentence. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle te brisera la tête et toi, tu lui tendras des embûches au talon, ou tu la mordras au talon. Une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, c'est évidemment l'annonce du Sauveur. Les pères de l'Église et tous les docteurs et théologiens ont l'habitude d'appeler la Très Sainte Vierge la Nouvelle Ève et le Christ le Nouvel Adam. Il ne s'agit pas ici d'une simple figure de rhétorique. Cela signifie que notre Seigneur va prendre la tête de l'humanité pour la sauver en devenant le Fils de la Sainte Vierge. Donc on voit dans cette sentence déjà une très grande miséricorde. On y voit également l'annonce de la victoire, tout d'abord de la victoire de la Très Sainte Vierge et de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le démon mordra la descendance de la Sainte Vierge au talon. Le talon, c'est ce qui touche la terre. Satan mord notre Seigneur au talon par la passion et sa mort sur la croix. Et c'est à ce moment-là que le talon écrase la tête du serpent. Et nous nous rendons bien compte, avec le développement des apparitions mariales dans ces derniers siècles, que Dieu, pour mieux humilier Satan, a décidé de donner à la Très Sainte Vierge une très grande puissance. C'est encore là, j'en suis persuadé, une miséricorde, une indulgence envers l'homme. L'homme moderne a beaucoup péché. À cause de cela, la foi a reculé, le nombre de prêtres a diminué, le Saint-Sacrifice de la Messe est de moins en moins célébré. Le magistère de l'Église est entouré d'un brouillard. Malgré tout, la promesse du salut demeure et Dieu donne accès à la Très Sainte Vierge, mais rien que par le chapelet, quiconque se trouverait sans prêtre, j'irais même jusqu'à dire sans catéchisme, sans messe, sans sacrement, rien que par le chapelet, quiconque peut se sauver. Il est évident que la descendance de la femme, ou sa postérité, c'est une autre manière de traduire, mais qui est parfaitement juste, elle aussi est en inimitié, c'est-à-dire en lutte, et on peut dire même en guerre, contre la descendance de Satan. C'est-à-dire que tous les chrétiens sont en inimitié avec les complices du démon. Les chrétiens se font mordre au talon. On peut penser aux martyrs, bien sûr, mais pas seulement. On doit penser à toutes ces morsures que le démon inflige à tous les hommes, mais seulement dans le talon. Le démon ne peut pas mordre plus haut que le talon si on ne veut pas le laisser monter plus haut. Il ne peut entrer dans le cœur que si on lui ouvre le cœur. Mais celui qui ouvre son cœur à la Sainte Vierge et à notre Seigneur Jésus-Christ le ferme au démon et le démon est impuissant. Et c'est cela, écraser la tête du démon. Nous tous, mes bien chers frères, nous pouvons écraser la tête du démon et nous le faisons d'ailleurs par notre fidélité aux promesses de notre baptême. Enfin, la postérité de la Sainte Vierge, ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, écraseront le démon à la fin des temps, car le démon qui aura mordu le corps mystique de l'Église, l'aura mordu dans ce qu'il y a d'humain et de terrestre, aura la tête écrasée par la chrétienté renouvelée, le corps mystique du Christ vivant sur terre déjà, personnalisé dans tous les saints, c'est la victoire de l'Apocalypse avant le triomphe éternel du ciel. Deuxièmement, la punition de la femme. Tu seras sous la puissance de ton mari et il te dominera. Ce n'est évidemment pas un châtiment, mais un remède. Même avant le péché originel, la femme était sous la puissance de son mari, nous avons vu cela. En servante, quoiqu'elle soit reine puisqu'elle est l'aide de l'homme, en servante, elle recevait la direction. La femme est la gloire de l'homme, dit saint Paul, et l'homme la gloire de Dieu. Cela veut dire, si on prend la réciproque, que Dieu est la lumière de l'homme et l'homme la lumière de la femme. Donc cette soumission n'est pas nouvelle, mais Dieu la rappelle. Il la rappelle parce que la femme va en avoir deux fois plus besoin. Elle va en avoir besoin, comme avant le péché originel, pour être fidèle à sa mission. Elle va en avoir besoin parce qu'elle est devenue faible, blessée. Elle a retourné ses qualités contre elle-même. Elle a retourné ses qualités de reine contre elle-même par l'orgueil. Ses qualités de femme, elle les a retournées contre elle-même par la sensualité. Et je parle des femmes blessées, toujours, par la mesquinerie. Je ne parle évidemment pas des femmes vertueuses. Elle est encore capable de régner comme aide de l'homme, mais à condition de lui être soumise. On peut retenir que cette soumission, qui était pleine d'amour avant le péché et désormais dure, difficile et un châtiment, je ne pense pas que ce soit vrai. Elle est difficile et dure entre un homme pécheur et une femme pécheresse, mais elle reste encore une miséricorde et un remède, parce que sans cela, la femme pécheresse tomberait encore plus bas. Certes, l'homme et la femme peuvent transformer ce miséricordieux remède en une peine terrible. Ça, c'est le lot de ceux qui, à cause de leur péché personnel, refusent le remède et n'en deviennent que encore plus malades, encore plus blessés. Que les hommes mauvais abusent des dons de Dieu n'empêche pas que les dons de Dieu sont des vrais dons, de vrais remèdes miséricordieux. Je pense que cette soumission, il ne faudrait pas retenir qu'elle est difficile et dure. Il faut au contraire retenir qu'elle a été élevée dans le sacrement de mariage, que le mariage qui constituait la famille, avec justement la place de l'homme et de la femme, la place respective et leurs fonctions respectives, ce mariage a été élevé à la dignité de sacrement. Dieu n'a pas fait un sacrement pour bénir le mariage, il a pris le mariage qu'il a élevé à la dignité de sacrement. Et ce faisant, il a élevé la soumission de la femme à son mari à l'exemple de la soumission de l'Église à Jésus-Christ. Bref, la soumission de la femme à son mari restaure la royauté de celle-ci. Et Dieu a une deuxième partie dans sa sentence. Envers la femme, je multiplierai tes fatigues et tes grossesses. c'est dans la douleur que tu mettras au monde des enfants. » Là, il est indéniable qu'il y a un châtiment pénible. Mais d'une part, ce châtiment est lui aussi un remède, et d'autre part, il est accompagné de grandes consolations. En effet, notre Seigneur dit dans l'Évangile, « Lorsque la femme enfante, elle est dans la douleur, mais aussitôt que son enfant est né, elle est dans la joie. » Tous ceux qui s'occupent de femmes déshéritées vous diront quelle est la joie, la fierté de ces jeunes mères lorsqu'elles découvrent que cet enfant qu'elles viennent de mettre au monde est le fruit de leur sein. Lorsqu'elles découvrent qu'elles ont transmis la vie. Lorsqu'elles découvrent qu'elles vont accompagner cette vie jusqu'à son plein développement, pas seulement corporel mais humain. Ce qui est vrai des femmes déshéritées est encore plus vrai des femmes chrétiennes. Quelle fierté, quelle joie lorsque la femme peut se dire qu'elle est mise au monde un nouveau serviteur de Dieu, un nouveau serviteur de l'Église. La joie de Madame Lefèvre lorsqu'elle apprit de Saint Pidis que le fils qu'elle portait serait un grand serviteur de l'Église. Mais sans aller jusque-là, la fierté et la joie de toute femme chrétienne de savoir qu'elle contribue à l'extension du royaume de Jésus-Christ. Ah oui, on peut le dire, les consolations sont bien supérieures aux peines. Et puis saint Paul rappelle que la maternité de la femme est ce qui la sauve. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, il commence par rappeler que la femme est soumise au mari. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mais il ajoute aussitôt, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. En étant mère, c'est-à-dire que Dieu lui rend sa mission première, et cette mission première la sauve. On voit quel crime abominable est la contraception, y compris la contraception dite naturelle, qui prive les femmes d'une grande aide au salut en les privant de leur maternité. Et si elles consentent à renier leur mission de mère, alors c'est pas seulement qu'elles sont privées du salut, mais elles se mettent, à moins qu'elles se convertissent bien entendu, dans le péché qui mène à la mort de l'âme. Les vices opposés à ce que Dieu vient de rappeler et de déclarer et d'imposer à l'homme, c'est tout d'abord la femme insoumise et celle qui refuse les enfants, et du côté de l'homme, l'homme faible. Dites-vous bien, messieurs qui m'écoutez, lorsque vous êtes époux ou père de famille, que Dieu accompagne votre autorité de sa grâce divine. Très souvent, lorsque vous êtes faible, c'est parce que vous ne comptez que sur vos propres forces, c'est parce que vous voyez la blessure profonde de votre épouse. Mais si vous vous rappeliez la puissance des paroles de Dieu, la puissance de vie des paroles de Dieu, la valeur de remède qu'il a donné à ces paroles, et à la sentence qu'il vient de promulguer. Si vous vous rappeliez la puissance de la grâce qui vous accompagne puisque vous êtes marié par le sacrement, alors vous auriez confiance en votre autorité et vous auriez confiance en la soumission de vos épouses. La punition de l'homme, maudite sera la terre en ton œuvre, et c'est avec des labeurs que tu en tireras ta nourriture durant tous les jours de ta vie. Elle te produira des épines et des chardons, c'est à la sueur de ton front que tu te nourriras de pain. Tout d'abord, remarquez bien, mes bien chers frères, que ce n'est pas l'homme qui est maudit, mais la terre. Le démon, lui, a été maudit, mais pas l'homme. La terre est maudite car elle appesantit, car elle produit les richesses qui rendent le salut difficile. Notre Seigneur, en effet, a proclamé qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et là encore, on voit que la peine et la sueur pour cultiver la terre sont une retenue contre les désirs des richesses et une réparation quand on les a trop désirés ou quand on en a trop profité. Cette peine et cette sueur sont un remède préventif, un remède curatif. D'ailleurs, là aussi, cette peine n'est pas si grande qu'on veut bien le dire, lorsque l'on voit le temps considérable dont les Indiens d'Amérique disposaient sous la sage conduite des religieux en Amérique du Sud. Ils travaillaient juste ce qu'il fallait, tout le reste était loisir. On constate la même chose chez les Papous, qui profitaient des loisirs pour se faire la guerre. Ça, c'est pas une bonne chose. N'empêche qu'ils en avaient. Un pieu, un trou dans la terre de la forêt, on plantait une patate douce, et elle produisait un fruit abondant. Et même chez nous, en Europe, lorsqu'on lit les livres d'histoire et qu'on voit le nombre de jours où le peuple cessait le travail pour de grandes fêtes, pour le mariage du roi, pour la naissance du prince héritier, pour vénérer le patron de la paroisse, le patron du diocèse, pour des pèlerinages, que sais-je. Enfin, il y a la punition commune. Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre et privés de l'arbre de vie. Pourquoi ? Pour les inciter à les retrouver, bien entendu. Mais cette fois-ci, non pas le paradis terrestre, mais leur paradis éternel. Non pas l'arbre de la vie qui rendait immortel, mais l'arbre de la vie éternelle qui fait entrer au ciel l'arbre de la croix. Voilà, mes bien chers frères, la prédication qu'on devrait entendre dans la bouche et qu'on devrait lire sous la plume des papes modernes. Oui, il y a un grave problème dans le monde moderne de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et Léon XIV vient de publier une exhortation apostolique, Dilexite, je t'ai aimé. C'est un comble d'ailleurs, car ces paroles, je t'ai aimé, sont adressées par Dieu à un évêque d'Asie mineure qui est victime des synagogues de Satan. C'est-à-dire que cette citation « Je t'ai aimé » est prise complètement à contresens et c'est évidemment voulu. Lorsque sainte Marie-Madeleine et Léon XIV commencent son texte par cela, lorsque sainte Marie-Madeleine répand un parfum précieux qui valait au moins le salaire d'un mois pour un ouvrier, Judas fait remarquer qu'on aurait pu donner cet argent aux pauvres et il aurait été ainsi mieux utilisé. Notre Seigneur ne lui répond pas « Tu as raison, Judas ». Il dit exactement le contraire. « Les pauvres, vous en avez toujours avec vous. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, Léon XIV traduit cette action évangélique exactement à l'opposé. Et c'est d'ailleurs presque blasphématoire parce qu'il ose déclarer que Jésus est le pauvre à laquelle sainte Marie-Madeleine apporte ses richesses. Alors que notre Seigneur dit exactement l'inverse. Il lui est beaucoup pardonné, à elle. Il ne dit pas « j'ai beaucoup reçu », il dit « c'est elle qui a beaucoup reçu » en faisant cet acte. Lorsque notre Seigneur dans l'Évangile recommande les œuvres de miséricorde, il ne recommande pas de partager les richesses, parce que Léon XIV voudrait qu'on éradique la pauvreté, c'est-à-dire que tout le monde soit riche. Or, comme nous savons que les richesses sont dangereuses, il voudrait mettre tout le monde en danger sur la voie du ciel. Et sans oublier en plus que ceux qui ne pourront pas recevoir ces richesses, parce que tout le monde ne les recevra pas, deviendront envieux. Ce qui est encore pire, je veux dire pire pour le salut. Non, notre Seigneur, lorsqu'il décrit le jour du jugement, ne parle pas de partage des richesses, il parle de miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père des cieux est miséricordieux. Or le Père des cieux, dans sa miséricorde, a décrété qu'Adam gagnerait son pain à la sueur de son front, que la femme mettrait dans, au monde et ses enfants dans la douleur, et tout ce que nous venons de voir. Surtout, la grande misère et la misère spirituelle, c'est-à-dire l'ignorance de la foi, le péché qui détruit la charité. C'est à cela qu'il faut remédier, et cela, Léon XIV n'en dit pratiquement pas un mot, et quand il en dit un mot, c'est pour se mettre à la remorque de la gauche communiste. L'homme a été chassé du paradis terrestre, et Léon XIV voudrait l'y faire revenir. C'est insidieux, sournois. Des millions de catholiques vont suivre cela sans réfléchir. Ceux qui ont encore la foi et la charité vont faire confiance aux paroles de Léon XIV et vont se faire un devoir de partager les richesses. Ils vont se faire un devoir de restaurer une part du paradis terrestre. Et là-dedans, puisque les femmes sont plus sensibles, gloire à elles, puisqu'elles sont plus sensibles que les hommes, elles domineront et elles feront la leçon aux hommes. Voilà le renversement d'aujourd'hui. Les paroles de la très sainte Vierge à Fatima sont encore plus d'actualité. Consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, sinon elle répandra ses erreurs. Voici qu'elle ne les répand plus, la Russie, ses erreurs à travers le Parti communiste, qui est comme moribond en apparence. Elle les répand par la voix de celui qui prétend parler au nom de toute l'Église. Le remède, le chapelet, le rosaire et les 5 premiers samedis du mois pour la conversion des pécheurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.